borracho de julio en el patio de un convento. El pueblo madrileño fundó el quinto regimiento. Anda, jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto, y vamos al tiroteo, y vamos al tiroteo. Con Lister y campesino, con galán y con modesto.
Bonjour à tous, bonsoir à tous plutôt. Merci d'être là. Ça n'est pas la peine que je vous dise que voici Régis Debray qui est ici. Cette musique que tu viens d'entendre, tu dis dans Loué soit nos seigneurs que c'est une musique que tu ne peux jamais oublier. Qu'est-ce que c'est cette musique, cette chanson?
Honnêtement, je l'ai entre-entendue, comme on dit entre-aperçue,
C'est le 5e régiment.
Con el quinto. Oui, c'est vrai que la musique est motrice parce qu'elle est affective et que mourir à Madrid et toutes les traces de la guerre d'Espagne ont joué un rôle important, évidemment, pour ma génération.
Alors ça, c'est une question qui m'intrigue beaucoup. On est à peu près de la même génération. On a été tous les deux... Enfin, moi, j'ai un an de plus que lui. Je suis né en 39, il est né en 40. Et moi, ce qui m'a marqué, comme toi, c'est la guerre d'Algérie. Nous étions surtout les Normaliens. Nous vivions sous l'empreinte de la guerre d'Algérie en train de se terminer.
Oui, alors, il faut tout de même élargir un peu le sujet, si tu veux. Rappelle-toi, à l'époque... effectivement, nous sommes la génération des guerres anticolonialistes. Je dirais que c'est la génération qui a essayé de réaliser concrètement la troisième force, la troisième voie, le tiers-monde, entre les deux blocs, et que c'était à la fois une question morale, existentielle pour nous tous, que la guerre d'Algérie, effectivement, ça a été un peu les propylées. La porte d'entrée dans, je dirais, la responsabilité politique, et ça a été une porte morale, découvrir que l'armée française torturait, que les pouvoirs établis en France, notamment le Parti socialiste, avaient avalisé la torture en avalisant l'état d'exception, tout cela nous a mis d'emblée en porte-à-faux par rapport à notre milieu.
En porte-à-faux, c'est peu dire.
Oui, en porte-à-faux, parce que on commence par un porte-à-faux. Ensuite, on fait un pas de côté et on se retrouve quasiment dans la clandestinité, c'est-à-dire en porteur de valise.
Et en prison. C'est ce qui t'est arrivé.
Oui, mais moi, en prison, c'était beaucoup plus tard. En France, je n'ai jamais été en prison. J'ai essayé de faire évader des gens de prison de Fresnes, mais les accords d'Évian sont... ont interrompu nos travaux souterrains. Et tant mieux pour tout le monde. Mais c'est vrai que je crois beaucoup dans l'esprit d'une génération et qu'on n'arrive jamais à en décoller. Et je pense même que lorsqu'on discute avec quelqu'un, lorsqu'on débat d'idées générales avec quelqu'un, on a envie de... Il faut d'abord lui demander... Où as-tu passé ta jeunesse et dans quelles circonstances? Il y a la génération antitotalitaire qui est venue après nous.
Ah, mais ça, c'est des années 70.
Oui, mais précisément, entre la génération de la résistance, qui est soudée pour moi la génération anticolonialiste et la génération antitotalitaire, il me semble qu'il y a un hiatus. Même si des gens comme Maspero ont pu franchir passer de l'une à l'autre.
Et si je comprends bien, la matrice, c'est quand même la guerre d'Espagne.
La matrice imaginaire, c'est la résistance et la guerre d'Espagne. La matrice imaginaire, c'est pour qui sonne le glas d'Hemingway, c'est Semprún, c'est Mourir à Madrid de Rossif, c'est El Quinto Regimiento que tu as passé ici. c'est, disons, la grande lutte antifasciste qui se prolonge dans la résistance française. Enfin, moi, j'ai connu les gens de la résistance, mais je n'ai pas connu la résistance, bien sûr. Mais le mythe de la résistance, dont j'ai seulement connu les intimités, les contradictions et les complexités beaucoup plus tard, lorsque j'ai noué une amitié avec Daniel Cordier, que j'ai compris tardivement que la résistance était une guerre civile qui n'a pas eu lieu.
Tu peux développer ?
Si De Gaulle n'avait pas été là, nous aurions eu le sort de la Pologne ou de la Yougoslavie. Voilà. Car il y avait plusieurs résistances dans la résistance, et il y avait quelque chose que j'ai tardé à comprendre. Il y avait entre la France libre et la résistance de l'intérieur un véritable fossé psychologique. Mais ça, je l'ai compris beaucoup plus tard. J'ai compris beaucoup plus tard à travers l'affaire Barbie.
On en parlera de l'affaire
Tout Barbie. Ce qui est dans tout. Je veux dire, bon, mais là, on est effectivement. Mais le mythe de la résistance, ce qu'il y a de bien, c'est que le mythe est un bloc, n'est-ce pas ? Le mythe est en blanc et en noir et blanc. Les grisés, les nuances, c'est déjà de l'histoire, c'est plus de la mytho-histoire. Donc, mythe de la résistance, mythe de la guerre d'Espagne, dont j'ignorais, à vrai dire, également...
Les contradictions.
La guerre civile dans la guerre civile.
Oui. Bon.
Ça, je l'ai découvert un peu plus tard avec Santiago Carrillo, Semprún et d'autres. Mais donc, c'est vrai, cette matrice-là, nous avions le sentiment... exprimé par Fanon, exprimé par Sartre dans la préface au livre de Nizan, nous avions le sentiment que l'histoire était bloquée en Europe, elle était gelée en Union soviétique, et que les choses, pour ainsi dire, se passaient ailleurs, se passaient dans le tiers-monde. C'était une vision, je dirais, très idéaliste, à laquelle Sartre donnait des couleurs littéraires, mais qui traduisait tout de même une certaine méconnaissance ethnologique du dit tiers-monde. Quoi qu'il en soit, c'est vrai que c'est dans cette atmosphère où on peut se retrouver naturellement à Cuba en 1961.
Oui, mais tu aurais pu devenir pied rouge en Algérie, par exemple, enseignant dans l'Algérie indépendante. D'autres l'ont fait.
Oui, je ne sais pas pourquoi.
Alors, mais... pourquoi l'Amérique latine ? Voilà.
Pourquoi l'Amérique latine ? Parce que c'était prolonger la guerre d'Espagne dans mon esprit. Et d'ailleurs, j'ai trouvé à La Havane en 61 beaucoup d'anciens de la guerre d'Espagne, dont Lister, le fameux général Lister, le général communiste, parce que l'attrait d'un livre, Aléro Carpentier, Le siècle des Lumières. Ce livre m'a bouleversé, car c'était en quelque sorte l'envers de notre siècle des Lumières, c'était la Révolution française vue de l'autre côté, c'est-à-dire vue de Haïti, de Saint-Domingue, des Antilles. C'était l'histoire, tu te souviens sans doute de ce livre, c'est l'histoire de Victor Hugues, personnage réel, qui est envoyé par Robespierre pour supprimer l'esclavage dans les îles, comme on disait, et qui... 10 ans après, va rallier Bonaparte et rétablir l'esclavage sur place. Quoi qu'il en soit, ce livre plein d'odeurs, plein de chants, plein de sensualité, avec un personnage admirable de femme qui s'appelle Sofia, d'ailleurs, en parlant de la longue marche, voilà. Et puis c'est ce texte qui est arrivé dans les mains du Che à Alger. Le Che l'a fait traduire en rentrant à La Havane en 65, et c'est ce qui fait que j'arrive à La Havane à la conférence tricontinentale à la fin de 65, où je rencontre Joséphine Baker. Et les choses sont compliquées.
Avant Fidel Castro. D'accord. Et Joséphine Baker, allons doucement. La tricontinentale, est-ce que tu veux bien rappeler ce que c'est? Alors, conférence tricontinentale.
La conférence tricontinentale a été quelque chose de capital et complètement effacé des annales, parce que, disons, c'est un film annonce qui n'a pas était suivi de la superproduction annoncée. La superproduction annoncée était la multiplication des Vietnams sur les trois continents.
L'île Vietnam partout.
C'était un prolongement de la conférence de Bandung. La conférence de Bandung, c'était Afrique-Asie. Ben Barka arrive. Ben Barka rencontre le Tché à Alger et se décide de faire une conférence tricontinentale incluant l'Amérique latine. Donc se retrouve à La Havane en janvier 66. On peut dire tous les mouvements révolutionnaires de l'époque. Il y a là Amilcar Cabral, il y a là Dos Santos, enfin il y a les colonies portugaises, africaines, il y a beaucoup de latino-américains, les mouvements de guérilla vénézuéliens, guatémaltèques, colombiens, quelques... Bref, c'est un peu, je dirais... Allende était là, mais considéré comme un réformiste bourgeois, sympathique, mais un peu compagnon de route lointain. C'est après qu'on a connu la réelle envergure d'Allende. Donc, cette conférence, et ensuite, Raymond Marcellin, et j'ai appris plus tard, a fait de la tricontinentale la pépinière de tous les mouvements gauchistes européen.
A... Peut-être rappeler qui était Raymond Marcellin, c'était un
ministre, ministre de l'Intérieur en 1968.
De la droite gaulliste.
Ministre gaulliste, enfin bon, non, enfin droite.
Oui, mais toi tu dis gaulliste, c'est vrai. Alors, droite. De la droite, pardon.
Droite. Enfin voilà. Donc cette conférence tricontinentale a été la pépinière de beaucoup de mouvements qui ont ensuite occupé le devant de la scène. C'est là où a été lancé le slogan créer 2-3 Vietnam. Le Tché n'y participait pas, il était en Afrique à ce moment-là. Et c'est là, effectivement, où j'ai été invité sur la foi de cet article, copieux, il est vrai, sur l'état des mouvements latino-américains. Mais tu me fais parler de la préhistoire, là, vraiment.
Oui, mais parce que la préhistoire, c'est... Enfin, c'est d'abord, c'est une préhistoire.
Bah, c'est tout de même 50 ans.
Et alors ?
Ah, mais je suis...
Nous avons la chance d'être, contrairement aux générations précédentes, on vieillit plutôt pas mal et on peut raconter. Alors, je vois vraiment pas pourquoi.
Non, oui, bien sûr, bien sûr.
Mais pourquoi est-ce que tu as choisi comme surnom de guerre, Danton ?
Parce que j'étais un patriote français, républicain, voilà, et que le personnage de Danton, d'abord ça se prononce bien en espagnol, Danton.
Ah oui, c'est vrai.
Et puis...
Et Robespierre, ça se prononce comment en espagnol ?
Et puis, je suis, que veux-tu, moi, un fils de l'enseignement républicain, j'ai lu Mathiès, j'ai lu Lefebvre, le personnage de Robespierre, même un peu sec, un peu couperet, quoi, un peu dur, un peu métallique, disons. Alors que Danton me semblait avoir une bonhomie, une rondeur, et puis de l'audace, toujours de l'audace. Enfin voilà. Donc, puisque nous sommes dans la mytho-histoire, le mythe de Danton qui a été pour moi un élément. Mais je me suis appelé Fabricio aussi en honneur de
la Chartreuse de Parme,
de Stendhal. Donc voilà.
Et Julien aussi. Tu parles de Julien Sorel quand même.
Non.
Ah non, je n'invente pas. Il se réfère à Julien Sorel. Je ne plaque pas Julien Sorel sur toi.
Non, mais j'ai beaucoup d'estime pour Julien Sorel, mais non, voilà. Bon, bref. Donc là, puisque tu fais ma biographie, un déshabillé biographique.
Faut pas exagérer.
Je te donne juste quelques repères chronologiques, voilà, voilà.
Alors l'invitation du Tché arrive sous la forme d'un pneumatique. À l'époque, ça s'appelait un bleu. Et
non, c'est en fait une invitation de Fidel Castro, parce que effectivement,
ah oui, pardon, c'est Fidel Castro.
Je suis au lycée Henri Poincaré de Nancy, en même temps que Judith Lacan, d'ailleurs, qui d'accord, c'était notre génération hein, d'agrégés de philosophie. Et bon, j'ai publié cet article, mais je m'en souviens plus. Et tout d'un coup, arrive un télégramme de Fidel Castro qui me dit de venir comme son invité personnel à La Havane où je débarque.
Et comment tu fais pour plaquer tes cours ?
Bah, écoute, ça, tu...
Je tombe dans le secret, là ?
Non, tu tombes dans ma gêne et ma honte, car quand je suis parti...
T'es parti comme ça d'un seul coup ?
Pour La Havane, je ne pensais pas rester. je ne pensais pas rester 5 ou 6 ans en Amérique latine. Je pensais rester 15 jours. Je pensais aller assister à cette conférence et revenir reprendre mes cours le 15 janvier. Et donc avoir des vacances de Noël un peu prolongées. Mais j'arrive et tout d'un coup, je me trouve mis dans le bain, considéré par Fidel et les siens comme un grand expert en guérilla.
Attends, mais ça, qu'est-ce que tu connaissais de la guérilla ?
Mais parce que j'avais été tout de même dans les guérillas du Venezuela, dans les guérillas de Colombie, j'avais... Mais comme ça, bon.
Et quoi, comme ça ?
Non, comme ça, c'est-à-dire comme un journaliste, comme un camarade, mais pas du tout comme un combattant.
À quel moment se situe l'entraînement militaire ?
L'entraînement militaire, il se fait dans différentes périodes, dans des conditions très différentes. Il dure un an et demi, mais dans différents camps, tantôt avec Fidel, tantôt avec d'autres groupes.
Comment ça se passe ?
Ça se passe que tu es amené dans une maison de sécurité, dans les environs de la Havane, et puis on t'amène dans un camp. Enfin, il y a différents camps d'entraînement pour différents types d'armes. Mais en gros, ce sont des... Tu as le tir, explosif, communication...
Attends, tir, je vois. Explosif, déjà, c'est pas si simple. Et communication, c'est-à-dire...
Radio, comment communiquer, encre sympathique, et puis... mais tu sais, par rapport à l'entraînement du SOE britannique de 42, c'était très très léger, Special Operation Executive que Churchill avait fait, c'est un entraînement constitué de marches, c'est un entraînement physique assez dur, effectivement.
Enfin, oui,
tous les commandos connaissent ça un peu dans tous les pays. Mais là, c'était dans la montagne, c'était aussi une dessiccation parce qu'on était très asséché par la soif. C'était un entraînement, quoi, une sorte de résistance physique comme ça.
Pourquoi desséché par la soif ?
Parce qu'on maigrit beaucoup et qu'on fait des marches assez exténuantes.
Et on ne trouve pas d'eau ?
Si, bien sûr, à la fin, mais il y a des moments où on est très... Enfin, bon, écoutez, tout ça n'est pas... Tout ça est très banal dans toutes les...
Oui, alors pas tant banal
toutes
que ça,
les armées
part,
du monde.
Part, moi j'aime bien les détails.
Non,
le diable s'y cache.
Moi aussi j'aime beaucoup les détails. On n'est pas médiologue si on n'aime pas les détails. Le diable et le bon Dieu sont dans les détails. Mais c'est vrai que là, j'ai beaucoup appris sur les choses militaires. Et puis, j'ai eu beaucoup de camarades, que ce soit guatémaltèques, vénézuéliens, dominicains, République dominicaine. Mais en Amérique latine, énormément de gens sont... aujourd'hui au pouvoir, pour certains, sont passés par ces camps ou par ces phases. Voilà.
Est-ce que tu y retournais ?
Oui, je suis retourné dans les années 70, après ma sortie de Bolivie. J'étais au Chili, je suis retourné à Cuba, bien sûr. Et là, d'ailleurs, j'ai repris l'entraînement, ce qui m'a amené à Managua, au Nicaragua, lors de la prise de Managua par les sandinistes. Voilà.
Ça, c'est 69.
Ah non, ça, les sandinistes sont peut-être 73, 74, oui. 75.
Attends, n'allons pas si vite.
Je ne me rappelle plus exactement.
Il faudrait qu'on fasse une sorte de parenthèse sur... Donc, tu n'as pas du tout connu les mouvements qu'on appelle néo-bolivaristes.
Non.
Ou ce sont les mêmes qui ont grandi.
Chavez, c'est vrai... a été en contact avec Douglas Bravo, qui était un des chefs guérilleros des années 60. Mais Chavez vient de l'armée. Il est d'une autre généalogie et d'une autre génération aussi. Les mouvements néo-bolivaristes, ça vient dans les années 80, 90 même, un peu plus. Voilà. Mais ce sont des générations qui se connaissent, qui s'engendrent l'une l'autre, pour ainsi dire. Mais je ne suis plus du tout un spécialiste de l'Amérique latine. Je m'intéresse beaucoup plus aujourd'hui à l'Orient, à la Chine.
Et tu reviens d'Iran.
Et je reviens dire, donc j'ai un peu, voilà, je garde des amis en Amérique latine, mais je ne suis plus les événements d'Amérique latine, ayant appris les dangers de l'ingérence, fût-elle de gauche ou d'extrême gauche. J'ai appris, au fond, en Amérique latine, la souveraineté.
Tu peux préciser ?
Simplement que... pour reprendre une formule toute faite, la libération des peuples sera l'œuvre des peuples eux-mêmes. Et que les étrangers perturbent. Et c'est le danger de l'internationalisme révolutionnaire qui oublie que la révolution n'est pas une patrie. Et que tous ces mouvements insurrectionnels, même s'ils avaient un langage marxiste, prolétarien, étaient fondamentalement des mouvements patriotiques.
Mais
étaient fondamentalement des mouvements nationalistes, révolutionnaires. Et donc, il peut y avoir des volontaires étrangers, mais les volontaires étrangers ne sont jamais totalement assimilés. D'ailleurs, j'ai remarqué une chose... J'ai fait l'histoire de Simon Bolivar, enfin j'ai écrit un livre que je n'ai pas publié d'ailleurs sur l'histoire des guerres de Simon Bolivar, et je me suis aperçu que dans les manuels scolaires latino-américains qui évoquent cette période, on ne mentionne pratiquement pas les volontaires français qui étaient nombreux, les Italiens, les volontaires britanniques, ça n'existe pas. C'est un indice, c'est un symptôme. Mais au fond, est-ce que nos histoires de la résistance ou de la libération de Paris mentionnent le fait que Paris a été libéré par des Espagnols ?
Pas vraiment, non.
Hein ? Non, pas vraiment. On ignore que les 4 ou 5 chars envoyés par Leclerc qui arrivent à l'hôtel de ville ont des équipages espagnols. Voilà. Avec le capitaine Drone, mais tous les équipages des chars sont espagnols.
Tu veux dire, le seul qui n'est pas espagnol, c'est Roll Tanguy.
Ah non, mais Roll Tanguy, c'est autre chose. Il n'est pas dans ses chars. Roll Tanguy n'est pas un militaire de la 2e DB. Les militaires de la 2e DB qui arrivent à l'hôtel de ville, enfin symbole donc de la libération de Paris, portent les noms de Teruel et d'autres noms. Ce sont des anciens combattants républicains d'Espagne.
Ce qui est quand même une belle revanche.
Mais oui, mais voilà. Mais ce n'est pas mentionné, à ma connaissance, dans les livres scolaires. Et bien de même, en Amérique latine, c'est pourquoi je suis fondamentalement plus que sceptique devant les interventions occidentales, réactionnaires, conservatrices, enfin des néoconservateurs, lorsqu'ils vont en Iran, en Afghanistan, lorsqu'ils auraient voulu aller en Syrie. Là, vraiment, je sais que, même de leur point de vue à eux, c'est contre-productif. Il y a une phrase de Mao que j'aime beaucoup, c'est la seule que j'ai retenue. Il a commis des crimes épouvantables, ce monsieur, et il a dit énormément de bêtises, mais il a dit une phrase formidable. La cause externe ne peut agir que par l'intermédiaire de la cause interne.
C'est encore donner une causalité à l'extérieur, ça.
Non. Si la cause externe veut intervenir, c'est pas par des avions, des drones ou des raids de commando. C'est en soutenant des forces intérieures et en se mettant à la disposition de ces forces nationales intérieures. Et donc tout ce qui est de l'ordre, je dirais, du parachutage, même si on dit « mais nous venons là pour encadrer », etc. Non, il faut que les choses viennent de la racine. Il faut que les choses viennent du terreau lui-même, du terreau populaire, du terreau paysan si nous sommes à la campagne, du terreau urbain si nous sommes en ville. Donc voilà, le révolutionnaire professionnel qui veut faire abstraction de sa nationalité et de son accent, parce qu'il y a le problème de la langue qui compte beaucoup, et de ses façons de manger, de ses façons de s'habiller, il est dans l'abstraction et il n'est pas vu totalement comme un frère. Il est vu avec un sentiment ambigu. Et ça, c'est le drame. C'est le drame de l'international communiste, c'est le drame des internationales de la troisième comme de la quatrième. Autrement dit, on n'exporte pas la révolution.
Et tu dis même ça à propos du Che, tu l'écris.
Oui, bien sûr.
Que ce qui a perdu le Che, ce qu'il a fait...
Non, ce qui a perdu le Che, c'est un certain nombre de choses d'ordre tactique, mais c'est fondamentalement ça. Il n'a pas trouvé... Enfin, il s'est mis dans un lieu tel qu'il n'a pas pu se raccorder aux forces vives du pays, qui sont fondamentalement les mineurs d'étain, les mineurs boliviens, qui sont les gens de Wanuni, de Catavix, de Lovente, qui étaient dans tout autre lieu. Et il s'est retrouvé... dans une zone où il a été vu comme un étranger, un perturbateur qu'on comprenait pas au sein, je dirais pas du population, la zone était quasiment déserte, mais le peu de paysans qu'il y avait dans des hameaux parlaient Guarani.
C'était bon. Tous des Amérindiens.
Pardon ?
Ils étaient tous Amérindiens.
Oui, en tout cas, proche du Paraguay, ils parlaient mieux le Guarani que l'espagnol. Il n'y avait pas de communication possible. Donc, je crois que, voilà, tout ça est fait une certaine... Ce sont des leçons, je ne dirais pas de géopolitique, mais de géopsychologie. On ne tombe pas du ciel, il faut naître de la terre.
Est-ce que c'est ça qui faisait, qui t'a fait apparaître, parce que tu le dis dans plusieurs de tes livres, que le Che était plutôt antipathique et Fidel Castro plutôt sympathique, et que c'était comme une sorte de contrepoint, contre-rôle?
Non, c'est peut-être pas les mots qu'il faut, mais disons que c'était deux personnalités complémentaires et contradictoires. Le Che avait du mal à communiquer. Le Che était un homme introverti, très, très sévère.
Asthmatique aussi.
Asthmatique, donc, qui se contrôlait et qui se domestiquait de façon, j'allais dire, coercitive, répressive, par rapport à lui-même. Alors que Fidel est expansif, communicant né, se mettant tout de suite en sympathie, en empathie avec son environnement, alors que le Che cultivait une autorité par retrait, une autorité par absence, une autorité par dureté même. Voilà, c'était deux personnalités qui se complétaient fort bien. Mais je dirais que le Che, en tant que personnage mythique, fédérateur, dominant, c'est surtout après sa mort. Car pour nous, le chef, c'était Fidel. Et le Che avait pour chef Fidel.
Ça n'apparaît pas tellement rétroactivement. Hein.
Ça n'apparaît pas rétroactivement, mais la réalité était celle-là. Alors effectivement, ensuite, c'est reconstruit toute une... il y avait le méchant Fidel, le dictateur, le bon Che sacrifié, etc. Mais il n'y avait pas, d'abord, il n'y avait pas d'opposition entre ces deux hommes. Il y avait une opposition de tempérament, mais il n'y avait pas d'opposition de fond, contrairement à ce qu'on a dit. Et la hiérarchie n'était pas celle qu'on imagine aujourd'hui. Voilà.
Oui, c'est quand même étrange que... Enfin, là, l'un est mort et l'autre a survécu. Qu'est-ce que tu dirais de l'histoire de Fidel Castro rétrospectivement et maintenant?
Je dirais que non, mais l'un est mort, l'autre a survécu. On peut invertir, renverser la proposition. C'est en mourant jeune qu'on survit en tant que
et Castro maintenant
figure historique. Et c'est en restant sur place et en vieillissant sur place qu'on s'éteint.
On s'éteint, j'allais le dire.
Voilà. Voilà. Il est évident que il n'est pas bon pour la postérité de durer trop longtemps. Il faut savoir partir. Et cela dit, ce que Fidel Castro a fait, parce qu'il s'est retiré du pouvoir, mais tout de même, 50 ans de pouvoir absolu, ça ne fait pas
bien. Confié à son frère ensuite.
Pardon ?
Confié à son frère ensuite.
Oui, non, mais ça, c'est... un jugement politique, bien sûr, qu'on peut...
Écoute, oui, on peut le dire, quand même.
Bah, évidemment, c'est qu'il y a quelque chose de féodal ou de familial, en tout cas. C'est vrai que, du point de vue du mythe, il est bon de mourir jeune. Vive abîme.
Oui.
Vive abîme.
En ce qui nous concerne, c'est raté. Hein. Alors.
Ben oui, effectivement, c'est trop tard.
Une bande dessinée vient de sortir qui s'appelle Cher Régis Debray, qui a été dessinée par Alexandre Franc, qui n'a aucun rapport avec Régis Franc, après ce que tu m'as dit.
Non.
Alors, j'ai choisi quelques images. En voici une, voilà, on ne voit pas très bien, nous, hein. Il faut qu'on se retourne. Voilà. Donc, tu es né plusieurs fois, ça tu l'expliques très bien dans Les Masques, et tu l'expliques très bien dans Loué soit nos seigneurs. Donc là, c'est ta naissance à 15 ans et rien à dire sur l'enfance. Une grande partie de cette bande dessinée est à la recherche de ton pater. Tu as eu des pères de substitution, c'est ce que montre la bande dessinée, dont Fidel et dont Le Che.
Mais la bande dessinée...
Non, tu lèves le micro.
Pardon, la bande dessinée, en fait, c'est plutôt la recherche d'un pater qui est moi pour ce jeune homme.
C'est-à-dire le chat.
Pour moi,
lui, Régis, c'est le chat.
Oui, oui, je suis le chat, mais, qu'est-ce que ça veut dire, je suis né à 15 ans?
En classe de philosophie.
Par la classe de philosophie, par mon maître Jacques Mouglioni, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au fond, éduqué au sens étymologique, tu le sais bien, ça veut dire sortir de chez soi et du serré, être conduit hors de chez soi.
Mais tu as quand même bien chez toi.
Oui, mais je m'en suis libéré. Et si je m'en étais pas libéré...
Qui plus est, j'ai connu une partie de ton chez-toi.
Non, attendez. J'ai eu une enfance totalement banale. Et l'endroit où j'ai été déraciné, c'est-à-dire où j'ai commencé à penser par moi-même, ça a été la classe de philosophie, où un maître exceptionnel, Jacques Mouglioni, rien dans les mains, rien dans les poches... réfléchissait à voix haute devant nous sur un certain nombre de notions, sur un certain nombre de textes, et là j'ai pris une sorte d'envol, mais comme beaucoup de mes amis, je suis né à la conscience problématique de soi, quand les choses cessent d'être naturelles et qu'on commence à se détacher de son milieu, ben bon, c'est une naissance. C'est une naissance.
On va passer aux autres naissances, si tu veux. Voilà. Ce maître, ça, tu sers.
Oui, alors... attendez, cette légende n'est pas de moi. Hein. Tout ça, je veux dire, c'est le dessinateur qui fait...
Mais oui, on a compris, ça, quand
les
même.
Les maîtres, les pères adoptifs. Alors, Louis Althusser a été, pour moi, également, un homme pour qui j'ai eu et je garde une très grande affection... qui m'a révélé la complexité des êtres, car en fait, cet homme dont l'œuvre est assez sèche et dogmatique, était le contraire de ces réflexions carrées, théoricistes, abstraites. C'était un être charmant, très vulnérable, la suite l'a montré. Et c'était en fait, je vais peut-être te surprendre, d'abord c'était un grand amoureux.
Oui, toi aussi.
Ses lettres à Franca sont bouleversantes, aussi belles que les lettres d'Apollinaire à Lou. Et au fond, la grande affaire d'Althusser, c'était pas du tout la détermination en dernière instance. C'était l'amour, tout simplement.
C'était comment vivre un amour en étant marié, si j'ai bien compris.
Alors, qui avait pour femme Hélène, admirable femme militante communiste, d'origine juive, exclue du parti, très proche du monde ouvrier, un peu ouvriériste elle-même, talons plats, cheveux courts...
Pas très belle, faut bien dire.
Hein ?
Pas très belle.
Pas
très belle.
Ah non, pas belle du tout. Et c'était sa mère. Les rapports de Louis était plus jeune qu'elle, et il a fait d'Hélène sa mère. Et donc il avait des rapports un peu, disons, névrotiques avec cette femme qui était à la fois son censeur, son guide, son surmoi, voilà. Et ça ne l'empêchait pas d'avoir en parallèle des amours avec de belles étrangères. Et je trouve que les lettres personnelles, les textes personnels de Louis sont admirables. C'était un littéraire empêché. Et donc j'ai compris la complexité d'un homme, c'est-à-dire au fond, comment il se ressemblait peu, au fond. Il avait ce personnage de cadre supérieur des élites marxistes, etc. Et en fait, il y avait tout un côté esthète, sentimental, intuitif, qui le rendait très attachant. Voilà, et j'avoue que j'ai toujours eu, jusqu'à la fin, beaucoup d'attachement pour cet homme, même si je n'épousais pas les thèses, notamment ce penchant au théoricisme qu'il avait. Voilà. Oui, j'ai eu un rapport filial avec Althusser, c'est vrai.
Oui, tu es un des rares intellectuels, sinon le seul, à avoir clairement posé dans quelque chose qu'on appellera roman, dans Les Masques, ce que tu viens de dire à propos d'Althusser, tu te l'es appliqué à toi-même. Toi aussi, tu dis que, enfin, comme Althusser, que les engagements politiques dépendent des femmes qu'on rencontre. Oui. Mets ton micro.
Oui, c'est vrai que d'abord.
C'est un livre magnifique, Les Masques. Il faut absolument que vous le lisiez si vous ne l'avez pas lu.
Connaître un pays, s'identifier à une culture, en tout cas commencer à circuler dans une mentalité collective, il faut connaître une femme qui sert de traductrice et qui vous acclimate. Et donc, c'est vrai que l'amour d'une cause passe souvent par l'amour d'une femme. Et c'est le cas, je crois, de tout le monde. Donc, j'ai eu la chance de connaître une Vénézuélienne, Elisabeth, puis d'autres, une Chilienne, Brésilienne. Bref, c'est comme ça qu'on arrive à...
Tu permets qu'on ajoute Jane Fonda?
Pardon?
Tu permets qu'on ajoute Jane Fonda puisqu'elle est dans le livre?
Oui, non, mais bon, mais ça, c'est oui. Ne faisons pas de name dropping. Mais quoi qu'il en soit, c'est vrai que l'affectif est moteur. Et l'affectif, ça ne veut pas seulement dire l'émotion amoureuse. Ça veut dire la musique. Une façon d'aide, de marcher, enfin bref, une culture. Et la culture, c'est une chose malheureusement, la culture au sens ethnologique, on est bien placé ici.
J'étais en train d'y penser que tu fais
l'ethnologie
amoureuse.
La culture au sens Molière, Racine, Corneille. Non, la culture au sens Claude Lévi-Strauss, si j'ose dire, c'est-à-dire une idiosyncrasie collective, un inconscient collectif. Qui est quelque chose qui permane, c'est très étrange. Ça, pour moi qui suis à la recherche des invariants à travers les variations historiques, il y a des caractères nationaux. Je veux dire que ça se porte mal aujourd'hui dès qu'on parle d'un caractère national, d'un tempérament national, d'un esprit national. C'est un peu suspect. Et pourtant, il y a un caractère national français, ne serait-ce qu'une langue, ne serait-ce qu'une cuisine, ne serait-ce qu'une une géographie. Au moment de la crise grecque, j'avais ouvert un livre d'Edmond Abou, grand spécialiste de la Grèce, normalien comme nous,
oui.
Et qui avait
C'était
écrit...
le roi des montagnes
Oui, l'homme à l'oreille cassée, le roi des montagnes. Il a écrit un livre sur la Grèce. Il y a un chapitre, les finances grecques. Nous sommes en 1855. J'ai fait lire ce texte sur le rapport du grec à l'impôt, à l'État, à l'endettement. Et les gens m'ont dit, mais comment, mais ça c'est un édito des Échos qui est paru hier. Non, c'est paru en 1850. Bon. Sur une mentalité. Le rapport de l'individu grec avec le percepteur, avec la notion d'État, d'impôt. Bon, voilà, c'est une mentalité. Si on veut connaître l'Iran d'aujourd'hui, il est bon de lire le comte de Gobineau et son livre « Trois années en Perse ». Voilà, vous trouvez des pages qui voilà. Donc, il y a quelque chose qui demeure. Et c'est quelque chose, malheureusement, qui résiste beaucoup et qui
vous
rejette.
Pourquoi malheureusement ?
Parce que vous êtes rejeté, parce que j'ai acquis un certain relativisme culturel. Claude Lévi-Strauss l'a admirablement décrit.
Non, mais il n'en voulait pas du relativisme.
Enfin, oui, on va tout de même. On ne va pas rentrer dans une discussion théorique de ce genre, mais je retiens qu'il y a une pluralité culturelle dans le monde.
Ah, bah oui,
et
ça
que,
oui.
Et qu'on ne devient pas vénézuélien du jour au lendemain. Et de même, j'imagine qu'on ne devient pas papou du jour au lendemain. Et je pense même que si on reste 10 ans en Papouasie-Nouvelle-Guinée, ce que notre ami Godelier a presque fait, on ne devient pas papou pour autant. Et le papou ne vous regardera jamais comme un frère papou.
Non, mais il est ton boulot d'ethnologue de regarder le papou comme un papou.
Mais je suis d'accord. Mais je veux dire que il y a dans cette persistance, insistance des cultures nationales, et d'abord des langues, des héritages inconscients que sont, que dessine un esprit national, il y a comme une pesanteur, une fatalité, quelque chose qui n'est pas domesticable. On en est ou on n'en est pas. Voilà.
Alors voilà, je fais apparaître... C'est un petit peu trafiqué ce que je fais là, je te le dis tout de suite. Je fais apparaître l'image d'Alexandre Franc sur l'irruption du « nous ». Mais je pense que le « nous » qu'il fait apparaître là n'est pas ce dont tu viens de parler, mais le « nous » révolutionnaire. Enfin, ça peut être les deux.
Oui. Alors, effectivement, je suis content que tu aies choisi cette image, parce que le thème du « nous » est pour moi essentiel. C'est tout mon travail philosophique, ça consiste à savoir comment on passe d'un « tas » à un « tout », et comment on passe d'une pluralité de « je » à un « nous ». Autrement dit, qu'est-ce qu'un esprit de corps ?
Comment... Tu l'as senti le plus, à quel moment de ta vie l'as-tu senti physiquement ?
Je crois que c'est en Amérique latine, d'abord, où j'ai senti la résistance des autres « nous », des « nous » autres. C'est-à-dire de ce fond de sauce que constitue une mentalité collective.
Avec Allende ?
Oui, non, c'est vrai que le Chili est un pays très européen. Le Chili est, comme on disait, la Grande-Bretagne de l'Amérique latine. On disait ça avant Pinochet. Mais oui, même, oui, il y a une façon d'être chilienne que je dirais qui peut s'apprivoiser, mais qui ne, qui ne s'assimile pas facilement. Donc, le nous, pour moi, c'est le grand mystère, et c'est la chose qui m'intéresse, totalement à contre-courant, parce que nous vivons, comme chacun sait, le monde du tout à l'ego, le monde de l'hyper-individualisme, et où toutes les recherches philosophiques de notre temps, je pense à Foucault, c'est précisément la quête de la séparation, refuser la suggestion, refuser l'incorporation, l'éloge du dissident, l'éloge de l'anormal, enfin bref, quitter le groupe. Moi, mon problème, c'est comment faire groupe ? Qu'est-ce qui fait qu'on fait groupe ? Et notamment, comment peut-on... comprendre le processus qui mène à une famille. Je ne parle pas de la famille du sang, je parle de la famille du sens, c'est-à-dire une famille spirituelle, une famille volontaire, que ce soit un cénacle, nous en avons fait quelques-uns ensemble, que ce soit un club de foot, que ce soit une société littéraire, que ce soit un parti, que ce soit une église. Autrement dit, qu'est-ce qui fait que les gens s'attiennent ensemble ?
Voilà. Tu appelles ça le sacré ?
Alors, en effet, je n'appelle pas ça le sacré, mais je constate que dans cette coagulation, dans cette prise de corps, il y a, pour que le groupe acquiert une durée, une pérennité, un développement durable, comme on dit, il faut un point de transcendance ou de sacralité, c'est-à-dire, c'est pourquoi les bons groupes se regroupent autour d'un cercueil, parce qu'il y a effectivement un mort, quelqu'un qui n'est plus là. Il faut une absence pour créer une coprésence. Il faut un méta pour faire de l'inter, si tu veux, en termes rapides. Il faut un méta-niveau pour faire de l'inter, c'est-à-dire pour faire du lien. Et je ne pense pas qu'il y ait une fraternité possible sans une affiliation, c'est-à-dire sans la reconnaissance
d'un pater.
D'un pater. L'exemple de Mandela en Afrique du Sud aujourd'hui est trop évident. Qu'est-ce qui fait que ça tient ensemble? C'est ce culte commun de Mandela. Mais on peut dire ça de tout pays. Donc, il n'y a pas d'histoire nationale sans une mytho-histoire. C'est une reconstruction mythique du passé avec une généalogie de grands hommes, de héros, de pères fondateurs. Voilà, ça c'est, je dirais, la condition de l'incorporation.
Mais quand tu es en train de marcher en colonne dans les montagnes, avec tout ton attirail militaire, vous êtes quoi, 10-15, c'est pas une famille ça?
Si, précisément. Une guérilla est...
C'est une mini-famille.
C'est une mini-famille, mais curieusement, là encore, on retrouve la question du nous, de l'indomptable nous, du mystérieux, de l'impérieux nous. Se reforment des groupes nationaux à l'intérieur d'un groupe...
Dans un si petit groupe.
Oui. Oui, oui. Il y avait, dans la guérilla... Tché se reconstituait naturellement le soir. Les Boliviens étaient d'un côté, les Cubains étaient de l'autre.
Et le Français à part. Le
Français allait de l'un à l'autre. Mais et j'ai trouvé ça dans beaucoup... Au fond, et les vrais groupes unis, dans la mesure où ils pouvaient l'être, et dans la mesure où un groupe politique peut rester uni longtemps, étaient des groupes nationaux. C'est pourquoi, à Cuba, les Vénézuéliens s'entraînaient ensemble, les Dominicains s'entraînaient ensemble, les Brésiliens ensemble. Donc c'est ce qui m'a amené non pas à devenir nationaliste comme un vain peuple pense, mais à comprendre que la nation est une réalité pas au sens seulement politique du mot, mais c'est une réalité culturelle, religieuse ou laïque, mais la laïcité peut être une religion, en tout cas un ciment.
C'est ce que tu as découvert en prison, dis-tu?
Oui,
c'est là où tu as...
En prison, j'ai eu la chance de pouvoir réfléchir un peu, oui.
Tu veux expliquer un peu cette phrase qui, comme tu
veux. Non, parce que moi, je ne parle pas de la prison, parce que c'est comme une période un peu blanche, dont j'ai très peu de souvenirs, parce qu'il ne se passait rien.
Mais tu l'as en tout cas écrit.
Alors, effectivement, au bout de quelques mois, j'ai pu avoir une plume et un stylo, puis des
seulement
des livres.
Au bout de quelques mois.
Ah oui, oui. J'étais pendant 3 mois sans rien. Mais bon, après, voilà, moi je trouve que la prison est une étape indispensable.
Attends, qu'est-ce qu'on fait si on n'est pas passé par la prison?
Eh ben, on fait que des bêtises. Moi, je ne saurais trop recommander à tous nos intérêts.
Avec les tabassages dont tu as été, tu dis que...
Oui, non, mais ça, c'est des accessoires, c'est des...
Comment ça, des accessoires?
C'est des à côté. Non, mais attends. D'abord, on vous tabasse et ensuite, on cesse... de vous tabasser, vous êtes condamné, bon, c'est fini. Mais non, moi je recommande beaucoup à nos camarades intellectuels qui ont toujours une tendance à la pétulance, à la vanité, d'aller, de faire un séjour en prison de quelques années. D'abord, rappelle-toi que ça, à l'époque du début...
1967.
À l'époque du XXe siècle, du début du XXe siècle, c'était l'université du révolutionnaire.
Oui, c'est vrai.
C'était reconnu comme l'université...
À l'époque, tous les communards sortaient de prison.
Tous les communards sortaient de prison, tous les bolcheviques ont fait de la prison.
Oui, enfin, ils faisaient trois mois.
Ils ont fait beaucoup plus.
Blanqui a fait plus, oui.
Et Mandela a fait 27 ans. C'est peut-être pourquoi il est sorti avec cette sagesse.
Comme Nehru qui a fait 27 ans.
Pardon
également. Comme Nehru. Nehru a fait 27 ans
oui,
aussi.
Oui, je pense que vraiment, je dirais que dans un parcours personnel, la prison ou à défaut le couvent est indispensable. Mais parce que d'abord ça permet de lire, ça permet de réfléchir, et puis ça donne un peu de distance, de recul. Enfin voilà, je ferai une association pour...
Si tu me permets une incidente personnelle, ouais. C'est ce que m'avait dit Lévi-Strauss en octobre 68. Ouais. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ? Il m'avait dit, prenez 3 ou 4 amis et enfermez-vous dans un couvent pendant un an.
Oui, c'est le phalanstère, c'est l'abbaye de Thélème. À défaut, c'est la prison. Alors évidemment, il faut doser, parce qu'évidemment, il ne faut pas rester 30 ans, encore que. Mais 3-4 ans, c'est très bien.
Un dernier mot sur la prison, c'est parce que ça me paraît très important. Par qui a été... Tu as dit que quelqu'un t'a sauvé de la mort. J'aimerais que tu rappelles qui, parce que c'est très important, ça.
Non, plusieurs personnes m'ont sauvé de la mort. D'abord, un photographe qui a pris une photo de moi après mon arrestation, parce que j'étais interpellé comme un Pékin sur une route, comme ça, comme n'importe qui, etc. Mais il a pris une photo de moi, et ensuite, l'armée bolivienne a émis un communiqué comme quoi il y avait eu un Français tué dans la guérilla, et 2 jours après sortait cette photo. Donc voilà. Deuxième personne qui m'a sauvé la vie, c'est un lieutenant.
C'est celui-là auquel je pensais.
Un lieutenant bolivien qui s'appelle Ruben Sanchez, qui a arrêté ses camarades et qui m'a vraiment sauvé la vie avec beaucoup de courage. C'est là où j'ai découvert qu'il ne faut pas se faire une idée stéréotypée des militaires et qu'il y a des gens très bien, si j'ose dire, chez les militaires, et notamment en Amérique latine. C'est pas pour rien que beaucoup d'entre eux sont devenus révolutionnaires, ou en tout cas, comme on dirait aujourd'hui, populistes. Je ne partage pas la connotation péjorative que ce mot a en France. Et puis, beaucoup de solidarité côté français ensuite, et puis un télégramme du général de Gaulle.
Oui, voilà, c'est...
Un télégramme du général de Gaulle qui a été effectivement providentiel, si j'ose dire. Il n'y a pas d'homme providentiel, mais il y a des télégrammes providentiels. voilà. Mais écoutez, bon... on est là en 67.
Oui, on est en 67.
Alors, on va rester jusqu'à demain matin.
Non, alors on va pas rester
avec ce train-là.
Non, parce qu'on a très peu parlé.
Mais
de
moi, je suis pas contre. Si on nous sert un petit verre de vin.
Oui, c'est d'accord. Ben non, entre-temps, avant le verre de vin qui viendra peut-être, si on veut bien. C'est quand même dommage de pas parler d'Allende, mais enfin, on va.
Ah oui.
Oui, ça oui.
Allende. Qu'il perd un peu de l'union de la gauche française à sa façon,
oui.
Puisque Mitterrand et Defferre sont allés là-bas, c'était le modèle. C'était le modèle un peu de cette approche électorale, démocratique, légale, vers un socialisme, disons, cohérent, consistant. Bon, on peut penser ce qu'on veut du résultat, mais Allende a été un pionnier extraordinaire et s'est révélé être, au fond, un homme d'un caractère et d'un tempérament proprement héroïque et même romain, puisqu'il s'est donné la mort lui-même. Ça a longtemps été contesté. Mais...
Ça l'est encore. Il y a quelques mois encore, c'était contesté. Pourquoi est-ce qu'on a caché ça ?
Parce que il y a une empreinte catholique ou chrétienne dans le mouvement socialiste qui est que on ne peut pas disposer de sa propre vie. Les chrétiens disent c'est Dieu qui vous l'a donné, c'est Dieu qui vous la retire, et les socialistes, les communistes, une certaine tradition révolutionnaire dit votre vie ne vous appartient pas, elle appartient aux masses populaires, c'est à elles, c'est à ces masses d'en disposer. Et si vous êtes tué, très bien, mais tant que vous n'êtes pas tué, eh bien, vous devez rester en vie pour le bien du prolétariat. Or, Allende a pratiqué le suicide stoïcien romain, qui est priver l'adversaire...
De la prise.
Priver l'adversaire de sa proie, c'est-à-dire, au fond... de les mettre devant leur forfait, car la plupart des coups d'État, disons, dans les régimes bourgeois latino-américains du XXe siècle, le palais présidentiel est encerclé par quelques tanks, et puis le président sort les mains en l'air, on le met dans un avion, et voilà, et il se retrouve dans un hôtel à l'étranger. Mais voilà, lui n'a pas voulu, lui s'est vraiment immolé, sacrifié pour, non seulement pour son honneur, mais pour l'honneur de l'unité populaire et du peuple chilien. C'était donc un personnage très étonnant, Allende, parce que d'apparence bonhomme, un peu sénateur rapsoc, bon vivant, aimant beaucoup la vie, pas du tout austère et pas du tout draconien ou drapé, un personnage bonhomme et qui a su à la fin s'exaucer au-dessus de lui-même, de ses pères et de sa tradition. Personnage plus que respectable.
De là, nous passons à Mitterrand, si tu veux bien, oui. qui a eu sa forme de courage lui aussi. Tu as été nommé en 81 chargé des relations internationales auprès de Mitterrand, et tu en es parti volontairement en 1985. Entre les deux, il y a eu l'enlèvement de Klaus Barbie.
Ouais.
Donc tu es quasiment le moteur de cette histoire-là.
Oui.
Est-ce que Vergès est encore dans le coup, là ?
Pardon ?
Est-ce que Vergès est encore dans ce coup-là ?
Non, pas du tout. Il est de l'autre côté. Il va se révéler comme de l'autre côté.
Bah oui,
non,
c'est pour
moi,
ça.
Moi, je ne suis pas le moteur. J'étais l'un des petits moteurs. Mais il se trouve simplement que j'évoquais la personnalité de ce jeune capitaine bolivien Rubén Sánchez, dont le frère Gustavo Sánchez, qui était également un de mes amis depuis 1964, est devenu un jour ministre de l'Intérieur bolivien. Parce qu'au fond, on est tellement ethnocentré, on est tellement orgueilleux et tellement arrogant en France que on pense que Klaus Barbie est arrivé comme ça, tombant du ciel chez nous. Il est arrivé parce que les Boliviens l'ont voulu. Et s'il n'y avait pas eu un gouvernement de gauche, démocratique, en Bolivie, avec le président Hernán Siles Suazo et mon ami Gustavo Sánchez, ministre de l'Intérieur,
il n'y aurait pas eu de Barbie.
Barbie serait resté un officier de l'armée bolivienne, protégé par l'aile fasciste de l'armée bolivienne. Donc il y a eu un véritable engagement difficile des Boliviens, difficile parce qu'il y avait des pressions considérables sur eux pour ne pas extrader Barbie. Donc voilà, ça a été, les fils ont été noués, en partie grâce à Serge Klarsfeld. On avait essayé de faire un enlèvement avec Serge Klarsfeld de Barbie en 72, mais ça n'avait pas marché. Mais ça a marché dix ans plus tard, parce qu'il y avait une conjoncture politique bolivienne, nationale, différente, qui a permis donc de ramener Barbie. Est-ce que c'était une bonne chose ? On peut en discuter.
Pourquoi ?
Parce que un certain nombre de personnalités haut placées en France estimaient que le retour de Barbie était de nature à rouvrir certaines plaies, puisque il faudrait parler de tout ce qui s'est passé à Lyon en 42 et 43, des divisions à l'intérieur de la résistance, de l'affaire Jean Moulin, et que certaines personnalités haut placées...
Tu peux dire qui ou pas ?
Non. Certaines personnalités haut placées pensaient que l'union nationale, et notamment l'unité de la mémoire de la résistance, pourrait souffrir de l'ouverture de cette boîte de Pandore. Et c'est vrai, quand on a vu Jacques Vergès commencer à distribuer les calomnies, on pourrait se poser la question.
Si je comprends bien, ça n'est pas une histoire terminée.
C'est pas une histoire ?
Ça n'est pas une histoire terminée.
Non, ce n'est, enfin si, c'est une histoire terminée. Mais c'est une histoire complexe, comme dirait notre ami Morin. C'est une histoire complexe. Ça dit, il n'y a rien à regretter, bien entendu. Mais c'est tout le problème comment dirais-je, de la façon dont notre rapport au passé peut s'exercer à travers ce type de procès. Tu as suivi le procès ?
Non, j'étais en Inde à l'époque.
D'accord. Oui. Moi, je l'ai un peu suivi. Je m'étais été convoqué comme témoin, mais je n'ai pas déféré à la convocation.
Pourquoi ?
Car Jacques Vergès m'avait convoqué comme témoin.
Ah la vache, pardon, excusez-moi.
Non, simplement, il voulait me faire dire que Barbier avait été enlevé. Et donc, il était en France illégalement. Mais il se trouve que j'étais malade ce jour-là.
Opportunément. Comment as-tu vécu la période difficile qui autour de François Mitterrand et de son attitude pendant la résistance?
J'avoue que Pierre Péan a tout dit dans son livre, qui n'est pas un livre à charge.
Non, je sais que c'est pas
une jeunesse française. Comme disait. Je ne sais plus qui. Est-ce que c'était pas Premier ministre gaulliste il disait de Mitterrand, il a été un très bon vichiste, il a été un très bon résistant.
Oui, mais ça peut se comprendre. Je ne sais pas si tu as les mêmes souvenirs que moi, mais j'ai des souvenirs de la fin de la guerre où ce genre de méli-mélo quand même se percevait en 1945.
Oui, moi je n'ai pas eu ce privilège, j'étais moins précoce que toi.
Non, ça fait une différence. Excuse-moi, tu n'es pas juif.
Non,
ça fait une différence aussi.
Voilà. Honnêtement, je ne savais pas. L'amitié avec Bousquet, par exemple, je ne la connaissais pas. Même si j'ai rencontré Bousquet avec Mitterrand.
Bien sûr, oui, j'en suis bien certaine. Ça.
Même si j'ai rencontré Bousquet avec Mitterrand, je ne savais pas qui c'était, René Bousquet, qui était assis à table. C'était le compagnon de...
Mais il avait un nom propre, quand même.
C'était le compagnon... Non. Vous savez, il était venu avec sa compagne, qui était la propriétaire de la Dépêche du Midi. Il était là en tant que compagnon de, ou ami, ou mari de. Voilà, donc... Enfin, bref. Mais... vous savez, un bon petit Français qui a lu... Pierre Klosterman et les mémoires du général de Gaulle ne sait pas que il y avait des résistants à Vichy jusqu'en 1942, que Couve de Murville lui-même, fidèle ministre du général de Gaulle.
Mais en fait, tu dis les choses sans les dire à propos de Couve de Murville, là.
Non, écoute, parce que c'est une affaire. Moi, je ne me sens pas en position de juger, de condamner. Je pense que Mitterrand est né dans une certaine classe sociale, dans un milieu social donné, qu'il a été, comme beaucoup de petits Français de 20 ans, il a cru en Pétain à un moment donné, et puis en 1942, il a compris que... Voilà. Mais je ne me permets pas de juger. Non, je ne me permets pas de formuler des jugements moraux, parce que moi-même, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Voilà. Bon, je suis là-dessus, comment dirais-je, évidemment peiné, bien sûr, mais je ne peux pas... je ne suis pas un redresseur de tort, moi. Je ne distribue pas les bons et les mauvais points. J'essaye de comprendre. Et je trouve que le livre de Péan est assez équilibré. Voilà.
Est-ce qu'on peut, si tu veux bien, passer... Parce que sans ça, on n'y arrivera pas. Donc, comme il me reste à moi un petit quart d'heure avant de vous passer la parole à vous, et Dieu sait qu'il y a encore des questions à poser, je voudrais qu'on saute droit à pieds joints dans la médiologie et qu'on passe à la jeunesse du sacré tout de suite, quitte à revenir... Ensuite, en arrière. Alors, voilà, je voudrais que tu... Voici ce que... Jeunesse de Sacré est un des derniers livres de Régis. Pas tout récent, mais enfin, des dernières années. Et voilà, le titre dit très bien ce que ça veut dire, Jeunesse du Sacré. Et je voudrais que tu commentes, planche après planche, que tu as réuni toi-même dans ce livre, qui est un magnifique livre illustré. Il y a donc une...
Oui, l'idée fondamentale, c'est que le sacré n'est pas... inséré dans le religieux au sens des religions immatriculées ou millésimées ou institutionnelles. Il y a un sacré un sacré séculier ou laïque, mais que c'est le sacré n'est pas une substance, le sacré n'est pas un être en soi. Le sacré est ce qui fait l'objet d'une sacralisation. Et ce qui fait l'objet d'une sacralisation se matérialise dans certains lieux. Ces lieux ont des caractéristiques, ce sont des lieux de rassemblement, ce sont des lieux clos, ce sont des lieux avec une enceinte, car le sacré doit être à part. Et on reconnaît un lieu sacré, prenez le Panthéon par exemple. Le Panthéon est un lieu où le sacré républicain est déposé. Il y a d'abord un emmarchement, il y a une grille. Ce n'est pas le sacré n'est jamais à claire-voie. Alors ça peut être une montagne sacrée. Une montagne sacrée, c'est difficile d'accès. Donc il y a un certain nombre.
Si on a fait le tour souvent en bas.
Oui, il y a un certain nombre de caractéristiques, si vous voulez, des lieux sacrés. Moi, j'ai approché le sacré, qui est une notion que les gens ne comprennent pas bien parce qu'ils la croient religieuse, mais elle n'est pas liée.
Non, elle est profondément laïque.
Elle n'est pas liée à un clergé, elle n'est pas liée à des textes sacrés. On a vu, par exemple, au pied des tours de Manhattan, après le 11 septembre, s'est constitué un lieu sacré avec toutes les caractéristiques du lieu sacré. Moi, j'ai découvert la notion de sacré lorsque j'étais sur la place Rouge à Moscou dans les débuts des années 80. Je fumais sur la place Rouge. Et un soldat est venu vers moi.
Ah bah oui, ça c'est interdit.
On ne fume pas sur la place
Rouge.
Oui. Donc j'ai compris que j'étais dans un régime athée, mais où il y avait du sacré partout.
Sur la place Rouge, à l'époque, il y avait encore Staline et il y a toujours Lénine.
Absolument. Et donc, il est évident qu'un mausolée est évidemment un lieu de sacralité. Donc j'essayais de...
Je ne sais pas, pardon de te couper la parole, mais je ne sais pas si tu as vu que Vuitton, qui avait installé une valise géante sur la place Rouge, a été obligé de faire ses malles, si j'ose dire.
Ils ont profané quelque chose parce qu'ils... Bref, la jeunesse du sacré, c'est paradoxal parce que tout le monde dit que le sacré, c'est ce qui est derrière nous. Non, dès qu'un groupe se constitue, il produit sa sacralité. Nécessairement, ça peut être un tombeau, une sépulture, un mausolée. Disons, un lieu sacré est un lieu où il y a des interdits, où il y a une enceinte, où il y a des rituels,
alors voilà,
où il y a des commémorations,
ça,
où il y a
de vibrer ensemble.
Où il y a des chants, c'est-à-dire c'est un lieu de coagulation, c'est un lieu de réunion, c'est un lieu de fusion, c'est un lieu...
De transe, pourquoi ne pas le dire ?
Pardon ?
De transe, pourquoi ne pas le dire ?
Et aussi de violence, c'est un lieu sacré, ne se partage pas le caveau des patriarches à Hébron, c'est un drame parce qu'il est partagé entre le monde juif et le monde musulman et c'est un lieu de massacre. Lieu de sacré ne se partage pas. Mais toi, tu as un autre lieu difficile à partager, Ayodhya.
On arrive à Ayodhya, voilà.
Voilà, Ayodhya. Tu peux en parler mieux que nous. C'est un lieu sacré, c'est un lieu de conflit. Pourquoi ? C'est un lieu identitaire, c'est un lieu qui cristallise... une singularité collective et comme on se pose en s'opposant, c'est un lieu identitaire qui s'affronte à une autre identité.
On va peut-être préciser ce qu'était que toi, sont les lieux sacrés
de la Ayodhya, tu peux en parler.
Ayodhya.
Alors là, nous avons à gauche, c'est à l'intérieur du Saint-Sépulcre,
qui est en bataille perpétuelle.
Lieu saint, mais aussi sacré. Le saint, c'est ce qui qualifie les personnes. Le sacré, c'est ce qui qualifie les choses et les lieux. Et là, effectivement, vous avez un problème de territoire à l'intérieur du Saint-Sépulcre, puisqu'il y a une partie pour les Latins, une partie pour les
Arméniens,
les Éthiopiens, les Abyssiens, et les Orthodoxes surtout. Et il y a toujours des conflits de territoire dès lors qu'un Latin, un Franciscain en l'occurrence, empiète sur l'Orthodoxe ou l'Orthodoxe sur le Latin, vous avez des affrontements et paradoxalement, c'est un soldat israélien qui vient rétablir l'ordre au sein de la chrétienté, ce qui est tout de même étrange. Et alors, à côté, vous avez effectivement là, vous avez l'esplanade des mosquées qui est à Jérusalem, à droite, en haut, oui. N'est-ce pas ? Qui est un lieu effectivement de confrontation quasi quotidienne entre les juifs orthodoxes qui viennent, étudier la...
Et ce matin, les musulmans...
Étudier la reconstruction du troisième temple.
Et ce matin même, Régis, les musulmans n'ont pas pu aller y prier parce qu'il y avait 30 cm de neige.
Ah oui, oui. Et puis, il y a au Tibet, ça va de soi. Alors, Ayodhya, c'est à toi d'en parler parce que tu es une grande connaisseuse de l'Inde et tu as écrit sur Ayodhya.
Oui,
tu peux dire à peu près ce qu'il en est, lieu sacré s'il en est, et donc
mais
lieu
non,
de...
Mais lieu sacré très récent, c'est ça qui est curieux, c'est parce que Ayodhya est une ville, c'est même pas une des villes saintes de l'hindouisme, même pas. Hein, c'est une ville où est supposé être né le prince Ram, devenu ensuite le dieu Ram, incarnation du dieu Vishnu. Bon, je me souviens encore de ma stupeur en voyant la télévision des tas de barbus mystiques, le front couvert de cendres, expliquer que forcément, sous la mosquée qui avait été construite sur le lieu sacré de la naissance du dieu Ram, on trouverait les preuves. On lui disait, mais qu'est-ce que c'est comme preuve? Il disait, creusez, vous trouverez. Hein, c'était vraiment mais c'est une invention des années 90, ça. C'est pas un truc récent. Parce que les musulmans et les hindous se sont partagés à Ayodhya pendant des siècles et des siècles, en tout bien tout honneur. Chacun avait son petit truc dans son coin. Et c'est quand ce parti nationaliste, le BJP, est né, là j'ai vu naître ce parti sous mes yeux, que le mythe d'Ayodhya est né. Il en est souvent des mythes en Inde. Hein. C'est un sacré récent. Et ça aboutit à des armées de yogis avec des explosifs, que tu aurais pu faire ça d'ailleurs toi, faire sauter la mosquée d'Ayodhya, qui ont fait sauter la mosquée d'Ayodhya à l'explosif en 92.
Non mais ce que ça montre, c'est qu'il n'y a pas de sacré en soi.
Non, voilà, c'est que ça peut...
Mais qu'il y a du sacré qui se fabrique, qui s'engendre. Autrement dit, il n'y a pas de sacré pour toujours, mais il y a toujours du sacré.
Oui, c'est ça.
Il n'y a pas de sacré pour toujours, il n'y a pas de sacré en soi, il n'y a pas une substance qu'on peut appeler sacré. Évidemment, ça c'est une conception d'un laïc comme moi et d'un rationaliste. Mais il y a, dès qu'il y a un groupe humain, dès qu'il y a une communauté durable, cette communauté se donne un lieu sacré. Auschwitz n'était pas sacré en 1945. Auschwitz est devenu notre lieu sacré. Pourquoi ?
L'un de nos.
Je dirais peut-être le seul lieu proprement européen. S'il y a un sacré européen, il est à Auschwitz. La preuve, si j'ose dire, c'est que c'est le seul lieu où, au moment de l'anniversaire de la libération du camp, se sont retrouvés tous les chefs d'État et de gouvernement, de l'Est comme de l'Ouest. Un lieu sacré est un lieu de fédérateur, est un lieu qui surmonte les contradictions, les oppositions. C'est un lieu profondément unificateur, et Auschwitz est devenu le lieu unificateur de la mémoire européenne, qui a ses interdits. Et d'ailleurs, tu as vu comment la question de l'appartenance est cruciale quand des moniales polonaises ont construit un couvent attenant à l'enceinte, attenant directement à l'enceinte. Le monde juif s'est mobilisé pour préserver l'intégrité de ce lieu. Donc voilà, la genèse du sacré, ça étudie de façon très phénoménologique les caractères de ce qu'on appelle sacré. Alors ça, c'est peut-être la sacrée.
C'est fécond sacrilège et ça nous amène à ta passion pour l'art.
Oui, non, là effectivement, là nous avons... Alors là, oui, fécond sacrilège, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'à un moment donné... on est passé du sacré historique, si vous voulez, c'est-à-dire de l'icône de Mao ou de Staline ou de Lénine dans le monde soviétique d'antan, du sacré de caractère historique séculier à la sacralisation de la nature. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une nouvelle sacralité de la nature qui est un peu évoquée ici à travers le déjeuner sur l'herbe, et une sorte de retour, disons le passage du rouge au vert, si vous voulez, le sacré rouge, le sacré communiste, au sacré vert, le sacré écologique. Et puis aussi la sacralisation de l'œuvre d'art. Voilà. Je dis fécond sacrilège, le déjeuner sur l'herbe. Oui, parce que... le sacré, c'est ce qui impose le sacrifice et prohibe le sacrilège. Mais il y a une façon de pratiquer le sacrilège qui caractérise l'art contemporain, c'est-à-dire comment à partir d'une icône sacralisée, on fait des pastiches, des dérivés pour ainsi dire.
Non, des recréations.
Hein ?
Des recréations.
Oui, des recréations, enfin, des pastiches dans le cadre de cette installation-là de 1994, mais on fait, comment dirais-je, des métamorphoses, des pseudomorphoses, bref, on joue tout de même avec un élément qui a été sacralisé et qui, comment dirais-je, se laïcise en quelque sorte dans toutes sortes de parodies. Bon. Non, mais je veux dire par là que il faut qu'un laïc accepte la réalité non pas immortelle, éternelle, mais la réalité pérenne du sacré. Je crois que le sacré, c'est le point de cohésion du groupe, et qu'une société qui perd son point de transcendance, sa ligne de son point de fuite, se démembre, se disloque.
Il est temps de revenir à Joséphine Baker.
Non, ça,
non, je ne plaisante pas du tout, vous allez voir.
Oui, oui. Bah, j'ai dit, le problème du Panthéon, c'est aujourd'hui qui doit-on sacraliser ? Bon, le Panthéon étant le temple laïque républicain, dont la sacralité a beaucoup baissé, parce qu'il ne faut pas croire que la sacralité, c'est 100% ou 0%. Il y a des échelles de sacralité. Il y a le monstre sacré, c'est une sacralité faible. Enfin, il y a ce qu'on appelle le monstre sacré, la star, c'est une sacralité faible. Mais il y a des sacralités fortes. Le Panthéon s'est désacralisé au cours du temps. Il faudrait lui réinjecter un peu de symbolique, mais c'est même symptomatique qu'aujourd'hui on se demande qui sortir de la série pour le mettre hors série dans cette...
Parce qu'il faut en sortir un ?
Bah, nécessairement, on peut pas
pourquoi ?
Transférer les cendres de tout le monde, il faut bien choisir quelqu'un.
On mais d'accord, dans ce sens-là.
Voilà. Pourquoi Jean Moulin plutôt que Brossolette, plutôt que d'Estienne d'Orve, plutôt que Gabriel Péri. Bon, il y a un choix, une société décide de sacraliser, c'est-à-dire de mettre au-dessus des autres un personnage qui va symboliser tous les autres. C'est un peu le rôle de Jean Moulin qui cristallise en quelque sorte sur sa personne l'unité de la résistance et tous les résistants, tous les martyrs de la résistance s'incarnant en sa personne, ce qui le sacralise. Et le sacrilège est interdit. Et donc, on peut aussi aller, comme Sartre, pisser sur la tombe de Chateaubriand dans un geste explicite de profanation. Et aujourd'hui se pose effectivement, tout le monde se la pose, les journaux, les magazines, etc. Qui va-t-on mettre au Panthéon, lequel est en restauration, en reconstruction. Le Panthéon va mal, il suffit de le voir, il y a des échafaudages partout. Mais enfin, bon, ça reste même le lieu unificateur de la République, le lieu de concentration, le lieu de confluence, où en principe on est au-dessus des partis, des sensibilités, des origines, une personnalité qui incarne l'esprit du temps. On la cherche.
Et Joséphine ?
Non. Il m'a semblé qu'il y a beaucoup de candidats dont les noms sont évoqués ici ou là. Il m'a semblé que Joséphine Baker, l'égérie du surréalisme, a été une grande militante. Elle était...
Une grande résistante ?
Elle était lieutenant de la France libre, résistante pendant la guerre. Elle a beaucoup milité, elle s'est engagée dans le mouvement noir américain. Elle avait été elle-même très maltraitée, aussi bien à Cuba d'ailleurs, sous Batista, qu'aux États-Unis, expulsée des hôtels, etc. Elle était à la tricontinentale car elle a été extrêmement solidaire des mouvements de libération d'Amérique latine. et que c'est une femme, je dirais, qui a fondé une famille adoptive très généreuse, transethnique, comme on dirait, multiculturelle, et qui représente, je dirais, qui représenterait quelque chose d'un peu nouveau, qui mettrait un peu de gaieté dans cet endroit sinistre qu'est le Panthéon.
Comment tu imagines
qui mettrait un peu, qui mettrait un peu de chair et qui montrait que la grandeur n'est pas nécessairement la grandiloquence et qu'il peut y avoir des vies exemplaires qui commencent dans le music hall. Voilà. Alors effectivement, on peut dire que c'est très politiquement correct, elle c'est une femme, elle est noire, etc. Oui, mais je pense qu'elle a...
Et elle a les seins nus. Comme les femelles. Et elle a les seins nus comme les femelles.
Oui, elle a eu des seins nus à un moment donné. Et c'est vrai qu'elle a, en quelque sorte, réhabilité le corps comme objet d'art dans les années 20, dans les années 30. Pas pour rien que les surréalistes l'avaient prise un peu comme exemple de liberté, de libération. Voilà, il me semblait que c'était une bonne...
Mais oui, c'est une bonne idée.
Il me semblait que c'était une bonne idée qui supposerait un pouvoir politique très sûr de lui et capable, d'affronter les quolibets et les fureurs du Front National.
De toute façon, quoi qu'il fasse.
Oui, enfin, ce serait un geste d'audace. Pour le coup, Danton serait bienvenu.
Merci. Je voulais passer la parole maintenant. Vous avez des porteuses de micro, des porteurs de micro. Je ne sais pas quel est leur genre aujourd'hui, qui vont descendre parmi vous. Et nous avons encore une bonne vingtaine de minutes pour pouvoir poser des questions ou prolonger la conversation.
Oui, bonsoir. Juste une question. Durant vos séjours en Amérique latine, est-ce que vous avez eu affaire à des chamans, tout simplement ?
À des ?
Des chamans.
Non, jamais directement, mais je connais l'existence de chamans et je connais l'intérêt qu'ont aujourd'hui nombre de scientifiques envers les chamans, au plan pharmacologique et thérapeutique, mais je n'en ai pas rencontré personnellement.
En revanche, tu as tué un ours en Amérique latine. Tu as tué un ours.
Oui, mais ça, ce n'était pas l'œuvre chamanique, c'était l'œuvre d'une carabine.
Mais c'est bien toi qui l'as tué. Madame, oui, vous avez le deuxième rang.
Oui. En fait, si je peux me permettre de poser cette question, pourquoi vous étiez en Iran ? Et en tant qu'Iranienne, je suis intéressée de savoir qu'est-ce que vous en pensez de l'Iran.
Merci de votre question.
Écoutez, j'ai été invité en Iran après l'élection de Rouhani pour rencontrer le cercle de sagesse et de philosophie de Téhéran, voilà, où il y a des chercheurs en sciences religieuses. J'ai donc pu aller à Qom également, dans la ville sainte, rencontrer diverses personnalités, à la fois officielles et officieuses, en vous privées, et constater que l'Iran voyait s'ouvrir une nouvelle période, me semble-t-il, avec un changement de génération. Le culte de la mort et l'obsession du martyr ne me semble plus à l'ordre du jour. J'ai vu une jeunesse qui veut vivre, qui veut s'épanouir, qui veut consommer aussi, qui veut jouir, pourquoi ne pas le dire. Et donc, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de pression à la fois générationnelle et démographique qui peut amener ce pays très compliqué et composite vers des horizons plus verdoyants que ceux que nous avons connus dans la dernière décennie. J'ai senti comme un soulagement, si vous voulez. Voilà. J'ai senti qu'une période était terminée, qu'une autre s'ouvrait, qu'il y a beaucoup de préjugés. En France en particulier, il y a une véritable iranophobie, il ne faut pas se le cacher, mais que j'espère qu'un certain nombre d'intellectuels, d'écrivains, d'artistes pourront aller là-bas, comme d'ailleurs beaucoup d'artistes exilés iraniens commencent à retourner là-bas, et que j'aimerais que la France soit plus présente qu'elle n'est pour le moment, ou qu'elle n'a été ces derniers temps. J'ai aussi constaté l'étrangeté de ce mixte entre théocratie et démocratie. Car je demande, certes il y a un guide suprême, mais je demande s'il y a un autre pays dans cette région où un candidat à la présidence de la République peut être élu au premier tour à 53% des voix contre tous les appareils en place. Je ne crois pas qu'on trouverait en Arabie Saoudite ce genre de phénomène.
Mais l'Arabie Saoudite est une...
Oui, mais bon, je ne crois pas qu'on trouverait dans la région ce genre de phénomène.
C'est un peu ce que disait Foucault au début.
Oui, je ne voudrais pas revenir à certaines illusions. Mais je comprends pourquoi Foucault, on se moque toujours de Foucault. Je crois qu'il a eu raison d'aller là-bas et de voir une sorte d'étrange spiritualité politique. Simplement, il a été un peu naïf parce qu'il n'a pas compris que, disons, où pouvait mener une certaine escalade révolutionnaire. Mais en tout cas, c'est un étrange pays où personne ne peut dire « l'État, c'est moi ». Car chaque pouvoir a un contre-pouvoir. Et où il y a un éclatement des lieux de pouvoir, et on ne sait jamais lequel est le bon, d'ailleurs. Ça dépend des dossiers. Et donc, c'est un État où le pouvoir est éclaté, avec toute une série de poids et de contrepoids, et où le guide n'est pas incontesté. Moi, j'ai rencontré des ayatollahs qui disaient qu'ils n'étaient pas d'accord avec le guide. Alors, il y a un grand problème, évidemment, pour le monde chiite, c'est que, comme vous le savez sans doute 10 fois mieux que moi, le chiisme, au fond, est un quiétisme. C'est une position d'extériorité par rapport au pouvoir politique, qui conteste le pouvoir politique traditionnellement et qui se tient à l'écart de la vie publique. J'ai cru comprendre qu'un certain nombre de dignitaires religieuses posent la question de est-ce que notre autorité morale ne va pas se fondre, ne va pas se décroître à force d'occuper les lieux de pouvoir. Autrement dit, est-ce qu'il ne faut pas, comme l'a fait Sistani en Irak, se retirer du jeu politique et laisser les civils et les séculiers gérer leurs affaires. Donc il y a des discussions, me semble-t-il, au sein du clergé chiite, clergé lui-même la hiérarchie catholique verticale et unilatérale. Le guide suprême n'est pas le pape.
Bon. En ce moment.
Oui, peut-être. En tout cas, oui. Sous Khomeini,
c'était... Ah oui, je te garantis, Khomeini, c'était le pape.
C'était différent. Voilà. Donc j'ai constaté, si vous voulez, que l'histoire continue, que la Perse a une longue histoire, qu'elle ne renie pas d'ailleurs. Beaucoup d'États islamiques ne veulent pas entendre parler de ce qu'il y avait avant. L'Iran en parle, le montre, ne le cache pas. C'est plaisant aussi de visiter une synagogue ou une église arménienne au cœur de Téhéran. Je ne sache pas qu'à Riyad, il y a des églises, qu'en Arabie Saoudite, il y a des églises. Donc c'est au fond une société qui me semble assez différente des régimes sunnites tout alentour et qui exige qu'on y regarde à deux fois. Voilà. Alors je ne parle pas de l'extraordinaire promotion des femmes qui, malgré le voile, un voile par ailleurs extrêmement amovible ou en tout cas très modulable.
Redevenu amovible.
Redevenu modulable.
Redevenu.
Non, mais redevenu amovible. Je parle d'une société en évolution. Je parle d'une société en transformation.
Moi, je l'ai porté le tchador en 71, puis je l'ai reporté après, pas le même. C'est pas le même, hein. Ça n'a rien à voir.
C'est tout de même intéressant de voir que le nombre d'étudiants a décuplé en l'espace de 20 ans et qu'il y a aujourd'hui plus d'étudiantes que d'étudiants. Et il me semble que les femmes, les jeunes femmes iraniennes sont frondeuses et courageuses. Bref, une société en pleine explosion de vitalité et qui peut, je crois, nous surprendre encore. Voilà.
D'autres questions ?
C'est un thème très complexe. Je ne suis pas du tout spécialiste de l'Iran. C'était mon premier voyage, mais vous m'avez posé la question.
Je crois qu'il y a encore une question qui va venir sur l'Iran. À moins que le micro soit
pas mal. Sur l'Iran.
Oui.
C'est surtout sur la notion du groupe que vous avez évoqué avec ce que vous avez dit plutôt vers la fin, donc multiculturel. Et puis le fait que éducation, ça vient d'être déraciné, d'être porté loin de ses racines. Alors comment, dans ce monde multiculturel, quelle est la notion de groupe? Quelle est la notion d'identité culturelle?
Oui, là, vous posez la grande question. Je dirais la grande question du 21e siècle. C'est un peu grandiloquent, mais je crois que nous allons vivre le siècle des minorités.
Oui.
Et que la question de la minorité culturelle dans son rapport au pouvoir politique va devenir essentielle partout. Notre problème aujourd'hui en France, du moins, c'est l'éclatement des mémoires entre communautés et l'absence, je dirais, d'un méta-récit unifié.
Qu'est-ce que tu appelles méta-récit ?
J'appelle méta-récit ce qu'on peut appeler aussi le roman national, c'est-à-dire Vercingétorix, Colbert, Napoléon et Jules Ferry, c'est-à-dire le Malais Isaac, si tu veux, c'est-à-dire
ça,
au fond...
Ça grouille de femmes, ce récit national.
Là.
Ça grouille de femmes sous cette forme.
Oui, récit. Non, mais je suis d'accord.
Il n'y a même pas Jeanne d'Arc.
Tout roman... Alors, on va mettre Louise Michel.
Non.
Jeanne d'Arc.
On ne va pas mettre Louise Michel.
Bon, on ne va pas mettre Louise Michel.
Elle a été anti-Dreyfusarde. Non.
On va mettre Sainte-Geneviève et Germaine Tillon.
Bon, voilà, ça va.
Voilà, pour te rassurer. Et Jeanne Lahuchette, il y a un certain nombre... Non, bref, le problème, effectivement, que nous avons en France, c'est un éparpillement, une sorte de repli communautaire, chacun sur sa mémoire, son histoire, et la communauté peut être... Elle peut être sexuelle, elle peut être régionale, elle peut être confessionnelle, elle peut être raciale. Et comment... Ce puzzle peut-il recomposer une harmonie, diraient les Chinois, en tout cas une coexistence? Ça suppose, me semble-t-il, une référence verticale, j'en reviens à l'idée de sacré, est-ce qu'il peut y avoir un sacré pour tous? En France, c'est le problème. Peut-il encore y avoir un sacré pour tous? Un sacré qui soit vécu comme sacré par tous les Français, quelle que soit leur origine, leur ascendance, leur région, leur lieu de naissance, chacun. Hein. Les Bretons, leur sacralité, les Basques aussi. Bref, est-ce que la Marseillaise...
Les Corses, n'oublie pas les Corses.
Oui, non, mais on pourrait multiplier Alsaciens, Corses, etc. Mais est-ce que la Marseillaise peut être chantée par tous? Voilà. C'est ça notre problème. Et c'est un problème qui se pose à d'autres pays aussi, mais en France particulièrement, puisque c'est là où l'État, la République, avait réussi à confédérer tout de même cet ensemble composite qui fait la France. Nous n'avons pas le sacré confédéral américain qui est Dieu, parce que « In God We Trust » est inscrit sur tous les dollars, et les Américains ont sur nous cet avantage, ce que ne comprennent pas les américanolâtres français. Les Américains ont un avantage que nous n'avons pas de par notre histoire. Ils ont une religion civico-biblique. Ils ont une religion, je dirais, biblico-patriotique. C'est-à-dire que ils disposent d'un dieu confédéral et le président de la République prête serment sur la Bible, le chef de l'État, Obama ou un autre, prête serment sur la Bible et termine son discours par... God help us, enfin, voilà. Bon. Et donc, cette référence verticale, c'est ce qui vertèbre l'unité du melting pot américain et ce qui empêche la guerre de tous contre tous, notamment la guerre des blancs contre les noirs, des sudistes contre les nordistes, etc. Nous n'avons pas ce recours, je dirais, révélé, d'une religion révélée avec sa manifeste destinée avec cette exceptionnalité théologique qui fait de l'Amérique une nation église. Encore aujourd'hui, et même plus aujourd'hui qu'avant, nous n'avons pas ça. Nous n'avons que des ressources, je dirais, immanentes, séculières. Nous n'avons pas de référence à une vérité révélée, séparation de l'Église et de l'État, donc nous ne pouvons avoir qu'un sacré laïc. Ça suppose une éducation, un culte républicain, une mytho-histoire, effectivement, qui est celle de la France, lumière des nations, Jules Michelet, enfin tous les mythes que vous voulez, mais qui ont tout de même réussi à faire d'un tas un tout, c'est-à-dire une nation. Aujourd'hui, il y a un morcellement, faute de cette référence verticale, faute de cette généalogie plus ou moins rêvée, plus ou moins artificielle, mais vécue comme valable par, comme ça l'a été entre le 19e et le 20e siècle. Donc voilà, c'est très difficile aujourd'hui que d'être ensemble. Être ensemble devient très difficile.
À propos des États-Unis, est-ce que tu es toujours interdit de séjour aux États-Unis ?
Oui, je suis inscrit sur la liste terroriste.
Mais comment ça se fait qu'il ne change pas ?
Je ne sais pas. Effectivement, je pourrais commencer à faire des procès, mais il faudrait prendre des avocats, ça prendrait trop de temps, et je préfère rester chez moi.
Ils ont enlevé Mandela en 2008. Tous les espoirs te sont permis.
Oui, mais non, je n'aurais pas cette prétention. Mais en tout cas, voilà, il y a des rémanences curieuses, des récurrences, des viscosités bureaucratiques et mémorielles. Je suis accusé d'être ou d'avoir été en contact avec des groupes terroristes. Il est vrai que les groupes terroristes d'un jour deviennent des groupes gouvernementaux le lendemain. Tout ça est très
fluide. Et Obama a serré la main de Raúl Castro.
Absolument, ce qui prouve que les Américains ont une plasticité formidable. J'aimerais qu'on ait la même.
Eh bien, je vous remercie infiniment de votre présence et de votre attention.
Ya se acabó el alboroto y vamos al tiroteo.